Vous avez des identités rapprochées, multiples.
Les IRM.
Voilà, comme c'est une autre manière de désigner une certaine nosographie médicale. Depuis combien de temps vous êtes-vous affranchi des règles de la syntaxe pour pouvoir construire votre propre rapport à la langue française ? Et qui êtes-vous, Philippe Solers, parmi ces IRM-là ? Lequel est le bon ? Lesquels sont les fantomatiques?
Et
croyez-vous en vous? Ça fait beaucoup de questions.
Je crois en toi.
Avec un grand T.
Oui, ou avec un T-O-I-T en toi. Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Qu'est-ce que ça veut dire, un, de tutoyer son âme en l'appelant éternelle? Ben, c'est pas moi, c'est Rimbaud. Je vous dis, dans l'autobus, ça crée un entourage bizarre. Vous savez, tous ces gens sont là, fatigués, hébétés, la plupart très soucieux. On passe sous un cèdre, c'est le début de l'éclaircie, qui bénit absolument toute la circulation. Voilà, les bons, les méchants, les fatigués, les malades, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Voilà, il y a tout à coup une sorte de... voilà, tout ça, c'est cool. Voilà. C'est cool dans la mort, dans le néant, bien sûr. Vous avez ou pas ce sentiment violent de l'écoulement du temps. Et qu'est-ce que c'est que voler selon? Selon. Quel est le bon Solers, me dites-vous? Quel est le vrai? Oh, quelle réduction!
Pourquoi... Non, arrivez-vous à cohabiter avec l'ensemble de vos Solers?
Ben oui, oui. Venez y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire. Vous cohabiterez avec tous mes solaires à la fois. Si vous trouvez que c'est fatigant, c'est possible. Il faut un système
non,
nerveux.
C'est vous qui devriez
je me fatigue beaucoup, mais je me régénère aussi. Non, il faut que j'ai une pensée émue pour les partenaires qui ont quand même accepté de m'accompagner avec tous ces solaires.
Pourquoi? Parce que solaires, c'est fatigant.
Oh là!
Solaire, c'est intempestif.
Oh là là.
Solaire se fait n'importe
quoi.
Oh,
j'aime beaucoup le mot intempestif. Oui, c'est très Nietzsche. Il était intempestif. Oui.
Solaire, a-t-il encore quelque chose à écrire qui s'affranchisse des règles de la syntaxe?
Écoutez, vous parlez des règles de la syntaxe comme s'il s'agissait de l'étable de la loi, mais
Je pense à Paradis.
En fait, oui, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, mais à la voix, on rétablit tout de suite la syntaxe, c'est très facile. C'était une tentative orale particulièrement précise.
Le trésor d'amour reprend aussi des parties, des manières d'écrire de Paradis?
Oui.
Il y a toujours une même trame.
Il y a des gens qui ont cru. Après, j'ai reçu 10 tonnes de pastiches de Paradis, de plagiat, mal fait en général, parce que les types ont cru qu'il suffisait de supprimer la ponctuation sans s'entendre. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de remettre un petit peu des phrases apparemment classiques pour raconter des choses. De toute façon, c'est les contenus qui importent. On sait. Quand on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, on se fixe sur la forme. Les contenus sont très importants chez moi.
Oui, mais la forme aussi. Peut-être d'abord la forme.
C'est la même chose. Bon, on ne me parle jamais des contenus, parce que ces contenus sont gênants. Pourquoi ils sont gênants? Parce qu'il y a un navigateur qui a des histoires multiples avec des femmes. C'est déjà... Est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Ça dépend qui le fait. Puis c'est... Casanova, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire plus actuel, voilà. Donc, c'est les contenus qui sont mal perçus.
Mais vous n'écrivez pas des histoires, Philippe Solers.
J'écris des tas d'histoires.
Oui, il y a des histoires.
Il y a des tas d'histoires avec des personnages féminins qui sont là dans tous les livres, qui ont des prénoms, je parle dans Fugue. Pourquoi universitairement et pourquoi le fait de ne pas savoir... Je dis que mes amis lisent un livre, disent « Ah, c'est très bon, etc. » Bon, c'est très bien. Mais si je leur demande comment s'appelait, quel était le prénom du personnage principal féminin de l'un ou l'autre roman, ils ne sauront pas me le dire. Donc il y a quelque chose qui oblitère la vision. C'est pour ça que j'ai mis « portrait de femme ». Je suis comme un peintre, je suis comme elle est, c'est celle-là, peinte comme ça, celle-là, celle-là, celle-là. Elles ont toutes des prénoms. C'est Mina dans Trésor d'amour. C'est... voilà, elles ont toutes des prénoms.
Mais ce sont toutes des facettes d'une galerie de 5 ou 6 femmes, quand on vous lit attentivement.
Pas du tout, il y en a de tous les milieux, de toutes les ethnies. À un moment donné.
Mais ça, c'est le côté collectionneur, là.
Écoutez, un collectionneur, en général, c'est inerte. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui range une collection en fonction d'une revente éventuelle. C'est horrible, le mot de collectionneur. Moi, je prétends au contraire, c'est un passage de Portrait de femme, que j'ai eu, en quelque sorte, mes collectionneuses, ce qui est tout à fait différent.
C'est-à-dire que c'est elle qui vous collectionne.
C'est ça. Donc, en général, c'est plus intéressant d'être collectionné, parce qu'on peut avoir, en effet, comme ça, des aventures. Donc, non, collection, c'est action. Dans collection, il n'y a pas action. Il faut être sur le terrain et dans l'action.
Séduisez-vous pour pouvoir en écrire.
Comme, vous savez, c'est comme toujours la même chose. Est-ce que vous vivez avant d'écrire ou est-ce que vous écrivez avant de... la réponse, c'est l'épitaphe de Stendhal. En italien. Stendhal a commis un blasphème épouvantable. Il a écrit son épitaphe en italien. Arrigo Belle, voilà. Visse, scrisse, amo. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. Son cousin a trouvé que la formule n'était pas correcte. Il a changé ça. On a été obligé ensuite de rétablir l'épitaphe. Non, il a écrit visse, amo, scrisse. Il a vécu, il a aimé, il a écrit. Mais non, il a vécu, il a écrit et il a aimé. C'est parce qu'il a écrit qu'il a aimé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Pour quelqu'un qui est dans le langage, qui est écrit constamment, les opportunités de la réalité se présentent. C'est exactement une façon d'agir dans la réalité même. Parce que vous êtes dans cet état-là et qu'un certain nombre de partenaires le ressentent comme tel. Et donc, c'est moins ennuyeux que ce qui leur arrive en général dans l'existence. Donc, bonne chance. Pas toujours, mais souvent.
On l'aura compris, vous passez vos jours et vos nuits à penser à l'écriture, à écrire, à recommencer chaque jour, chaque page d'écriture. Pourquoi vous encombrez-vous encore, Philippe Solers, de la dure tâche d'être un éditeur, puisque vous dirigez une collection chez Gallimard, et aussi de cet emploi du temps très astreignant que requiert la direction d'une revue qui s'appelle L'Infini ? Est-ce que vous ne voulez pas, justement, rester en tutoiement avec vous-même toute la journée ?
Premièrement, si je ne m'étais pas occupé de m'auto-éditer, il n'est pas sûr que mes livres auraient été édités. Pas sûr du tout. Par conséquent, vous aurez remarqué
c'était
sans doute...
C'était une protection, alors, de votre propre
c'est
travail.
C'est la guerre. La guerre, dans ce cas-là, est défensive. C'est la meilleure, c'est la meilleure forme
Vaut
de guerre.
Vaut mieux se prémunir.
Et c'est une guerre. La guerre est c'est une guerre. Entre l'individu seul qui écrit et la société en général qui n'en a rien à foutre. Ou alors gagner de l'argent de plus en plus sur des faux produits. Ok, donc c'est la guerre. Donc, si je ne m'étais pas occupé de me donner la liberté de me publier en fondant deux revues qui ont fait parler d'elle, l'une qui est dans tous les dictionnaires dans le monde
entier. Il y a même des livres dessus, comme l'excellent Philippe Forest.
Donc, si je ne m'étais pas astreint à faire ça, je n'aurais pas pu avoir la liberté personnelle que j'ai eue par ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de la guerre.
Et les auteurs que vous avez découverts, et pas des moindres, puisque vous êtes un acteur essentiel de la scène culturelle française depuis plus de 50 ans, vous ont-ils influencé ? Je pense à Barthes, par exemple.
Oh, Barthes, je ne l'ai pas découvert, il existait déjà.
Il est venu à vous, il a écrit sur moi. Il vous a encouragé. Est-ce que tous ces signes de ces grands poètes, vous avez évoqué aussi la figure d'Aragon, Breton,
tous ces gens
de Francis Ponge.
Oui, c'est comme si vous demandiez à un musicien, tous les musiciens, on connaît tout ça très bien en général.
Ça vous a jamais tourné la tête ?
Mais ma tête tourne à 100 à l'heure, donc j'ai pas une tête à tourner.
Ça tourne trop vite.
Ça tourne au point que ça paraît immobile, si vous préférez. Hop, comme les hélices. Bon, écoutez, non, Barthes, le charmant Barthes, à la fin de sa vie, il voulait écrire un roman. Bon, c'était évidemment trop tard. Bien entendu qu'il ne pouvait pas écrire de roman.
Mais il n'y a pas d'âge pour écrire des romans.
On commence pas à 60 ans à écrire des romans, cher ami. C'est quelque chose. À 40 ans, c'est déjà la limite. Céline, Le voyage au bout de la nuit, c'est 40. Bon, mais là, ça n'est plus possible. Non.
Vous avez commencé par le roman.
Oui.
Mais vous n'avez pas écrit que des romans.
Non.
Comment se fait justement l'orchestration des différents cycles d'écriture ?
Tout naturellement, parce que, encore une fois, c'est...
C'est pensé ou ça vient comme ça ?
Mais ça vient quand, par exemple, Le Monde, c'était je devais faire un grand article par mois. Bon.
Qui était prodigieux et qui...
Ça donne La Guerre du Goût.
Qui ressortissait effectivement à des lectures...
La Guerre du Goût, bon, voilà.
Précise.
Donc, ce que je prévois en général, c'est... Il y a des commandes que je prévois comme les différents aspects d'un livre à venir. Donc, savoir se servir des médias, comme je suis en train de le faire, avec vous, ça consiste...
On verra qui se sert de qui. Moi, j'ai l'impression que notre rencontre, depuis maintenant 4 jours, elle est loyale et qu'elle n'évoque pas d'arrière-fond, de marchandage ou de je ne sais pas trop quoi.
Mais non. Vous vous servez de moi, je me sers de vous.
Non, parce qu'on a souvent dit, mais comment vous servez de moi ?
Je vous écoute, je vous réponds, et nous passons sur les ondes ensemble. Vous, avec votre voix, tout à fait, positive.
Vous êtes sans voix, hein ?
Qui me laisse absolument sans voix. Elle va revenir, peut-être, mais je pense trop à la vôtre pour la retrouver. Là.
Non, mais non, parlons mais bon. Des médias. Ici, on est à France Culture... Mais on vous a beaucoup reproché.
Ah, on. Revoilà, on.
Des critiques vous ont beaucoup reproché. Des gens qui ne vous aiment pas, il y en a, vous ont beaucoup reproché. C'était le titre qui vous était donné, de faire le pitre à la télévision pendant un certain temps. Vous le regrettez ou pas ?
Mais pas du tout. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Le clown, le pitre, l'acrobate, n'importe quoi. Il faut de toute façon. Que ça cause. Il faut faire travailler.
Mais ça
critiques.
Cause pas de la même manière quand vous êtes dans une télé, une émission nulle et que vous essayez d'amuser les autres, parce que vous êtes très drôle de toutes les façons.
Mais écoutez, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est démontrer que tout ça n'a aucune importance, que les médias.
Mais vous avez de l'importance. Votre parole a de l'importance.
Mais non. Mais non. Si j'avais de l'importance, y aurait, par exemple, l'université me porterait au nu. Mais non.
Ah, vous le regrettez.
Oh non, je m'en félicite, parce que ça prouve que je ne suis pas mort. Attendez, écoutez, Laure, soyez patiente. Je mourrai. Soyez-en sûr, je ressusciterai aussi d'une autre façon. Enfin, c'est pas... Voilà, je ne suis pas pressé. Et ben, vous verrez que ma cote, y compris universitaire, sera énorme.
Ça ne sera pas le seul. Hein.
Ça sera même très rapide. Oh oui, mais si, mais là, je serai découvert.
Vous avez l'impression d'être un incompris.
Pas un incompris, un censuré. Oh.
Pourquoi censuré ?
Parce que, encore une fois, on est dans l'oubli, dans la non-lecture. Que le grand problème de notre époque, c'est la non-lecture. Bon, je ne suis pas le premier à le dire, mais je suis le premier à le dire à ce point.
Mais vous êtes lu ?
Oublu.
C'est-à-dire,
c'est pas vrai. Il faut pas mentir. C'est pas vrai. Écoutez, je fais un métier chez un éditeur. Je vois très bien comment tout se passe maintenant de plus en plus. Vous savez très bien que la situation est très inquiétante.
Pas seulement pour vous, pour tous les écrivains.
Pour tous les écrivains. Voilà. Elle est catastrophique pour
la. Ne parlons pas des poètes.
Oh, les poètes. Mais c'est leur faute. C'est parce qu'ils ne se battent pas.
D'ailleurs, poésie, écriture.
Ah, c'est la même chose. Mais tous les poètes qui se croient poètes parce qu'ils écrivent des poèmes ont évidemment tort. La poésie, c'est la guerre, disait Mandelstam. Ils ne s'organisent pas pour la guerre. Donc, ils sont voués à la disparition. Une disparition satisfaite, ils se contentent des petits pourboires qu'on leur donne. C'est la misère en poésie. La poésie ne doit pas supporter la misère. J'exècre la misère, dit Rimbaud. Il a raison. Donc, c'est la guerre. Donc, vous comprenez, il ne faut pas se plaindre. Never complain, never explain. Il faut faire la guerre. Ce sont des rapports de force. Les rapports de force, dans la guerre, c'est des rapports de pouvoir, etc. etc. Dès que, tant que j'ai pu, je me suis posé des questions comme ça, en termes de rapports de force, de pouvoir, etc. Et alors, les critiques fusent, elles fusent, parce que ce sont des contestations. Il faut empêcher un type qui est gênant de prendre du pouvoir. Donc il fait le pitre, on va le traiter de ceci, de cela. J'ai été dérisionné sous toutes les formes. Je m'en fous complètement. L'important...
Non, vous en foutez pas, parce que dans votre dernier bouquin, vous parlez de Marguerite Duras et vous semblez avoir été blessé à un moment où elle vous critiquait, vous avez affublé... D'un adjectif qui n'était pas très sympathique d'ailleurs, mais vous semblez avoir été blessé.
Eh bien, c'est un tort. Je n'ai pas été blessé. J'ai trouvé qu'en tauromachie, c'était une excellente partenaire à qui il fallait que je renvoie son insulte. Et je l'ai fait. Cela dit, je précise les conditions dans ce livre, Portrait de femme. Je précise en effet des choses à propos de cette ineffable Marguerite Duras. Bon, et donc,
vous êtes bizarre avec Marguerite Duras, parce qu'en même temps, vous la critiquez dans votre prochain ouvrage qui sort ces jours-ci, Portrait de femme. Et en même temps, dans le dernier hors-série du Monde consacré à Marguerite Duras, vous en faites l'éloge.
C'est ce qu'on a. Ça s'appelle l'ambivalence. Voilà, qui est souvent là une chose intéressante à étudier. J'aime Marguerite Duras quand son cas, historico-politique, en l'occurrence, m'intéresse au plus haut point. Hein, parce que c'est pas rien quand même, s'appeler Donadieu, l'Empire français, patati, patata, moi, je ne veux pas vous réciter ça. C'est ce que Blanchot, n'est-ce pas, autre personnage très important de ces régions, appelle la communauté inavouable. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une communauté inavouable? Oh, que c'est intéressant. Bon, enfin, bref. Non, Duras, c'est important, à cause surtout du culte dont elle a été l'objet à partir d'un certain moment. Voilà. Ça correspond à l'élection de Mitterrand, la mort en 1984, best-seller, etc. Voilà, c'est tout. Oh, voilà. Tout ça est très politique.
Demeurez-vous un étranger pour vous-même?
Pas du tout. Étranger en quoi?
Je sais pas, vous êtes multiple, alors y a peut-être des solaires inconnus de vous qui ne sont pas encore dévoilés.
Oh là, ça m'étonnerait, mais laissez-moi, je vais regarder, peut-être, peut-être. En tout cas, au XVIIIe siècle, un Français ne se sentait pas étranger. Depuis, peut-être, peut-être.
Que vous reste-t-il à écrire?
Au plein de choses. Je suis déjà dans un grand roman qui m'intéresse beaucoup parce que je développe des trucs... Oui. Tout à fait nouveau. Donc, j'en ai déjà... presque la moitié, les deux tiers. Oh, un très bon roman. Excellent, excellent. Croyez-moi, très content de moi. Il est très content de lui. Il est très content de lui. Et les autres sont pas contents de lui parce qu'il est content de lui. Salaud, on aura ta peau.
Merci Philippe Solaire. Je rappelle que tous vos ouvrages, mais ils sont trop nombreux pour pouvoir les citer, vous les trouverez sur le site internet de France Culture. Vous les trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies. L'avant-dernier, c'est Fugue. Et ça fait quoi? Ça fait 2000 pages au moins, non?
1020.
Ça fait 1110 pages.
30 euros, c'est donné.
Et puis le dernier, là, qui va paraître ces jours-ci, qui lui est très concis. Et c'est un petit trésor. Il s'intitule « Portrait de femme » et il est publié aux éditions Flammarion. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à vous, Philippe Solers.
Et merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci à Philippe Palarès, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture, les ateliers de la nuit.